Père, et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, bien chers amis, dans l'épître d'aujourd'hui, Saint Paul nous dit de marcher digne de la vocation à laquelle nous avons été appelés. De quelle vocation s'agit-il? En fait, d'une double vocation, bien chers frères. D'abord, une vocation générale, puis une vocation particulière. La vocation générale, c'est tout simplement la vocation à la sainteté. Qu'est-ce que ça veut dire, vocation? Le mot vocation vient du mot vocare en latin, qui veut dire appeler. Donc une vocation, c'est un appel. Il y a un appel général et un appel particulier du bon Dieu. L'appel général, c'est pour tous les chrétiens, tous les hommes en fait. Tous les hommes sont appelés par Dieu à devenir des saints. Pourquoi? Parce que Dieu veut que tous les hommes aillent au paradis. Saint Thomas nous explique, de volonté antécédente, notre Seigneur Jésus-Christ veut sauver tous les hommes, même si de volonté conséquente, c'est-à-dire à cause du refus de la grâce malheureusement de nombreuses personnes, seuls iront au paradis ceux qui seront en état de grâce au moment de leur mort. Mais le bon Dieu veut et souhaite que tous les hommes aillent au paradis. Donc la vocation de tous les hommes est une vocation générale, à savoir que le bon Dieu a préparé une place pour chacun d'entre nous au ciel. Et j'ai été créé pour cela. J'ai été créé pour louer, honorer, servir Dieu et sauver son âme. Donc je vais passer un certain temps sur cette terre, un certain nombre d'années, pas très longues en général. Et le bon Dieu attend que je remplisse mes obligations ici-bas sur la terre pour pouvoir un jour me récompenser avec le ciel. Voilà la vocation générale. C'est ce que dit Saint Paul, la volonté du bon Dieu, c'est notre sanctification. C'est quoi notre sanctification? C'est tout simplement la vertu de charité, mettre la vertu de charité en nous et garder la vertu de charité en nous par l'état de grâce. N'oubliez pas que la vertu de charité, c'est tout simplement l'habitation en nous de la Sainte Trinité. Monseigneur Lefebvre nous faisait souvent le reproche au séminaire, il disait, on a toujours tendance à compliquer la définition de la charité. La charité, c'est tout simplement l'habitation de Dieu en nous, puisque Dieu habite en nous, on peut dire que le cœur d'un catholique, c'est déjà un petit bout de paradis. C'est déjà un petit bout de paradis parce que notre Seigneur Jésus-Christ habite en nous, la grâce de la charité est là en nous. Évidemment, il y a une différence essentielle entre notre petit bout de paradis ici-bas, le paradis après la mort, c'est que le petit bout de paradis que nous avons sur la terre est très fragile. Nous pouvons le perdre facilement. Nous pouvons très facilement, par le moindre péché, détruire ce paradis en nous. Alors que une fois que nous serons avec la grâce du bon Dieu au paradis, au ciel, alors là, ça sera terminé, nous y serons de façon définitive, sans crainte de le perdre. Donc il faut demander au bon Dieu, mes bien chers frères, d'être fidèle à cette vocation générale qui est la nôtre. On entend parfois des paroissiens nous dire des choses très curieuses, des gens qui ne connaissent pas très bien la foi, qui nous disent, monsieur l'abbé, la sainteté c'est pour les prêtres et les religieux seulement. C'est bien triste de dire cela. Parce que comme la sainteté est nécessaire au paradis, ça veut dire qu'au paradis, il n'y aurait que les prêtres et les religieux. Ce serait pas très amusant. Au paradis, le paradis est pour tout le monde, pas simplement pour les prêtres et les religieux. Donc tous les hommes en sont appelés par le bon Dieu à la sainteté. Certes, le degré de sainteté auquel le bon Dieu nous appelle est différent pour chaque personne. S'il n'y a aucune égalité entre les hommes. L'égalité n'existe pas entre les hommes. Tous ont été créés par Dieu, bien sûr, mais le degré de charité que le bon Dieu demande à voir dans chacune de nos âmes dépend des grâces que le bon Dieu a données à chaque âme. Chaque âme a une taille différente. Il y en a qui ont des petites âmes, il y en a qui ont des grandes âmes. Si l'âme est petite, il faut qu'elle soit pleine du bon Dieu. Du moment qu'elle est pleine du bon Dieu, la personne en question a rempli son devoir d'État. Si l'âme, au contraire, est beaucoup plus grande, elle a reçu beaucoup plus de grâces du bon Dieu, le bon Dieu exigera davantage pour une âme qui est plus grande, c'est évident. Rappelez-vous cette belle comparaison qu'on trouve l'autobiographie de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Elle compare notre âme à un verre. Elle dit, le bon Dieu, qu'est-ce qu'il demande? Est-ce que le verre qu'il nous a donné soit rempli au moment de notre mort? C'est un petit verre apéritif qui est grand comme ça, il faut que le verre soit rempli. S'il est rempli, on a rempli notre devoir d'État. Et si bon Dieu a mis dans une âme un grand pichet à bière qui fait 50 centilitres, eh bien dans ce cas-là, il faut que ce pichet à bière soit rempli. Je ne peux pas dire, maman, le voisin a un petit verre, donc il a eu un centilitre de grâce dans ce verre, et donc il est plein, il a rempli son devoir d'État. Moi, je fais pareil avec mon grand pichet à bière. Non. Parce que le bon Dieu demande à celui qui a reçu une âme plus grande, beaucoup plus, que ce qu'il va demander à une âme qui a reçu beaucoup moins. Rappelez-vous la parabole des talents. Il y en a qui ont reçu 10 talents, il y en a qui ont reçu 5, il y en a qui ont reçu 2 talents ou un seul talent. Bon, celui qui a reçu 5 talents, le bon Dieu va lui en demander 10. Celui qui a reçu un seul talent, le bon Dieu va lui demander 2. Celui qui a reçu un talent qui en donne 2 a rempli son devoir d'État. Celui qui a reçu 5 talents qui en rend 10 a aussi rempli son devoir d'État. Mais si celui qui a 5 talents se disait, eh ben moi j'ai nettement plus que mon voisin qui en a reçu qu'un seul, donc ça suffit, je fais la sieste toute la journée, j'attends que le bon Dieu vienne me chercher, celui-là n'a pas rempli son devoir d'État. Donc, mes chers frères, il faut comprendre ces choses-là. Le bon Dieu demande à chacun d'entre nous de remplir notre fonction ici-bas sur la terre. Chacun d'entre nous a une fonction qui est déterminée, qui est différente pour chaque personne. Il y a des gens qui ont une fonction plus importante que d'autres, des gens qui ont une fonction moins importante que d'autres. Ce n'est pas parce qu'une personne a une fonction moins importante qu'une autre que ça veut dire que cette personne aurait un degré de gloire moins élevé au ciel. Une personne qui a une fonction peu importante sur la terre, mais qui a bien rempli sa fonction avec charité, aura au ciel un degré de gloire plus grand que quelqu'un qui a une fonction beaucoup plus importante ici sur la terre, mais qui n'a pas rempli son devoir d'État. Ça, c'est la vocation générale. Pour certaines personnes, il y a une vocation particulière. Encore une fois, il n'y a pas d'égalité. Le bon Dieu va chercher certaines personnes. Le bon Dieu est allé chercher Saint Paul. Saint Paul se promenait, plein de haine contre les chrétiens, il chevauchait son cheval et il allait sur la route de Damas pour obtenir les papiers nécessaires pour arrêter tous les chrétiens. Et le bon Dieu l'attendait au tournant. Le bon Dieu le précipite de son cheval, le rend aveugle et lui dit « Saul, pourquoi me persécutes-tu ? » Et Saul devait dire, mais Seigneur, qui êtes-vous? Je suis le Seigneur que tu persécutes. Je suis celui que tu persécutes. Et bon Dieu a fait de Saul un païen, en quelque sorte. Il a fait un vase d'élection qui est devenu un nouvel apôtre et qui a ramené dans le sein de l'Église, a amené dans le giron de l'Église des millions de personnes. C'est pareil avec Saint Matthieu, par exemple. Saint Matthieu est à sa table de changeur. Était un pharisien, le bon Dieu arrive, viens et suis-moi. C'est clair. La volonté du bon Dieu est manifestée. Saint Matthieu se lève, suit notre Seigneur et devient Saint Matthieu. Pareil pour les Saint Pierre et tous les apôtres, le bon Dieu est allé les chercher, lâchez tout, abandonnez vos filets, abandonnez votre pêche, le matériel de pêche, venez et suivez-moi. Et ils ont tout lâché pour le suivre. Mais notez que le bon Dieu n'est pas allé chercher tout le monde. Il est allé chercher certaines personnes. Il n'a pas appelé de la même façon tous les gens qui venaient écouter ses sermons. Il y a des milliers de personnes qui venaient écouter ses sermons. Le bon Dieu va parler à certains d'entre eux d'une façon toute particulière, ce qu'on appelle la vocation particulière. Donc le bon Dieu nous appelle tous au ciel, bien sûr. Mais pour certaines personnes, il a voulu donner à cette personne des grâces particulières pour que cette personne remplisse une fonction particulière ici-bas sur la terre. Et donc il a voulu pour certaines personnes à cause de ces grâces particulières, de devenir plus directement des amis intimes de notre Seigneur Jésus-Christ. Ce sont les religieux. Qu'est-ce qu'un religieux? Qu'est-ce que c'est que quelqu'un qui a ce qu'on appelle en français vulgaire la vocation? Quelqu'un qui a la vocation, c'est quelqu'un qui est choisi par notre Seigneur Jésus-Christ d'une façon plus particulière. Encore une fois, il ne faut pas chercher à comparer les âmes, chaque âme est différente. Donc celui qui est jaloux des grâces d'autrui, c'est même un péché contre le Saint-Esprit, dit Saint Paul. Donc attention à ces choses-là. Qu'est-ce que le bon Dieu nous demande? De remplir notre devoir d'État. Et est-ce que le bon Dieu va chercher ses vocations plus particulières? Est-ce que le bon Dieu va chercher des âmes extraordinaires? Non, c'est souvent des toutes petites âmes aussi. Mais à qui le bon Dieu donne des grâces particulières? Et il faut parler de ces choses-là, expliquer ça à nos enfants. C'est de façon que si le bon Dieu appelle un de nos enfants, la personne puisse répondre. Parce que son Seigneur frappe à la porte, il va venir, viens et suis-moi. Mais il ne va pas nous obliger à le suivre. Il ne va pas être avec un couteau sous notre gorge pour nous obliger à le suivre. Alors quelles sont les conditions d'une vocation? Vous serez sans doute étonné de savoir qu'elles sont minimales. Qu'est-ce que disent, par exemple, un grand docteur de l'Église, Saint Alphonse de Ligorie, qu'est-ce qu'il donne comme condition? L'intention droite, l'absence d'empêchement et l'acceptation par un supérieur. Point final. Toute personne qui a une intention droite, c'est-à-dire qui cherche la vie religieuse, qui cherche la vie consacrée pour sauver son âme, pour augmenter la gloire du bon Dieu, ce qu'on appelle la tension droite, a déjà le droit de se mettre sur la liste. Après, il faut l'absence d'empêchement. Évidemment, l'Église a placé ce nombre d'empêchements, qui sont soit des empêchements spirituels, des empêchements physiques, des empêchements qui peuvent être psychologiques aussi. C'est évident que quelqu'un, par exemple, qui n'a aucune santé, quelqu'un qui a des obligations, par exemple, de s'occuper de ses vieux parents ou des choses comme ça, ne peut pas penser à la vie religieuse au sens strict, c'est impossible. Mais s'il y a l'absence d'empêchement, déjà, on peut se mettre aussi sur la liste. Afin d'être accepté par un supérieur. Évidemment, aujourd'hui, ce n'est pas facile de trouver des maisons religieuses, des couvents, des séminaires, des monastères qui gardent la foi, et de moins en moins, malheureusement. Mais le bon Dieu donne les grâces. Donc, si nous avons la vocation générale à la sainteté, ce qui est le cas pour tout le monde, il faut répondre à cet appel. Si le bon Dieu nous appelle d'une façon plus particulière, pour le suivre comme religieux, comme religieuse, comme frère ou sœur dans une famille religieuse, encore une fois, il faut se mettre à jour, demander les grâces du bon Dieu et répondre à l'appel, bien sûr. Mais ne pas penser une seule seconde que je réponds à l'appel parce que je suis plus malin que les autres, pas du tout. Le bon Dieu va chercher des instruments pour servir sa gloire. Et plus l'instrument est petit, plus on est obligé de voir dans cet instrument l'action du bon Dieu qui travaille. Le bon Dieu ne se sert pas d'instrument humainement parlant avec qui a une potentialité humaine très grande. Il cherche simplement une âme qui est ouverte, dans laquelle il puisse rentrer et faire ce qu'il veut. Il ne faut pas non plus penser l'inverse. Parfois, on entend aussi ces choses-là. C'est malheureusement beaucoup trop fréquent aussi des gens qui pensent à la vie religieuse parce qu'en quelque sorte, ils ont raté leur vie. Comme une jeune fille, ça arrive régulièrement. C'est des exemples que je donne, mais ça arrive régulièrement. Des gens qui me disent, monsieur l'abbé, des dames ou des jeunes filles qui me disent, monsieur l'abbé, moi j'ai complètement raté ma vie, je ne sais plus quoi faire, mon mari m'a abandonné, mon petit ami m'a abandonné, j'arrive pas à me marier, tous les hommes autour de moi me disent que je suis trop laide pour trouver un mari, donc je me fais religieuse. Mais bien sûr que non. Il ne faut pas croire que la vie religieuse, c'est une grande poubelle dans laquelle on met les gens qui ne peuvent pas se marier, c'est évident. Le bon Dieu prend à son service des gens qui ont un degré d'amour, dans lequel il veut voir un degré d'amour supérieur à la moyenne, c'est évident. Il y a une autre phrase dans l'épître d'aujourd'hui, au chapitre Saint Paul aux Éphésiens, dont je voudrais parler un petit peu. Le Seigneur nous rappelle qu'il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême. Vous nous rappelez l'unicité de l'Église catholique. Il n'y a qu'un seul Dieu, et puisqu'il n'y a qu'un seul Dieu, il y a un seul Seigneur, comme dit saint Paul. Donc il y a une seule Église, en dehors de laquelle personne ne peut être sauvé. Pourquoi il n'est pas possible d'être sauvé en dehors de l'Église catholique? Parce que seule l'Église catholique est une Église divine. Parfois on entend les gens nous dire, mais monsieur l'abbé, il y a quand même des valeurs de salut dans d'autres églises, dans d'autres religions. C'est faux, ça c'est l'enseignement de Vatican II, c'est pas l'enseignement catholique. L'enseignement de l'Église de Vatican II, il ne peut pas y avoir de valeur de salut en dehors de l'Église catholique, parce que hors de l'Église catholique, il n'y a pas de salut. Il ne peut y avoir de salut en dehors du nom de notre Seigneur Jésus-Christ, parce qu'il est l'unique et vrai Dieu. Donc il y a un seul Seigneur, une seule foi, c'est une Église, une sainte catholique apostolique. Cette unité, quand on dit que l'Église est une, ça veut dire quoi? Que l'Église est... Et une, parce qu'il n'y a qu'une seule foi, un seul salut. Encore une fois, quand on dit Saint Paul, c'est un seul Seigneur. Donc, une unité de foi, une unité de culte, une unité de gouvernement. La même foi, le même culte, le même gouvernement de l'Église, pendant toute l'histoire de l'Église, parce que justement, notre Seigneur Jésus-Christ ne peut pas changer ses instructions, ses dogmes, son catéchisme, parce que justement, ces choses-là sont divines. Quand on apprend un métier nouveau dans le monde moderne, ça change tout le temps. Il faut constamment se mettre à jour des nouveaux changements pour se maintenir à flot. Ce n'est pas nécessaire que le catéchisme. Le catéchisme est toujours le même. Quand j'étais au séminaire, je me rappelle, nous avions une pièce de musée dans la bibliothèque du séminaire, nous avions un missel du XIe siècle. Mais je pourrais célébrer la messe aujourd'hui avec ce missel sans changer un iota. Pourquoi? Parce que tout était déjà dans le missel du XIe siècle. Rien qui a changé. Le Seigneur nous dit aussi qu'il y a un baptême, pour bien nous rappeler justement que le baptême est la porte d'entrée au paradis. La porte d'entrée, tout simplement d'abord dans l'Église catholique. Il n'y a qu'un seul baptême. Alors attention, il faut bien, bien comprendre cette phrase, parce que malheureusement, beaucoup de personnes, de groupes schismatiques ou même hérétiques, utilisent cette phrase pour dire que le bon Dieu exige le baptême d'eau. C'est exact que le bon Dieu demande le baptême d'eau, c'est que toute personne qui veut rentrer dans l'église doit commencer évidemment par passer par la porte. La porte, c'est le baptême d'eau. Mais le bon Dieu qui sait que le baptême est nécessaire au salut, dans certains cas particuliers, pour une personne qui ne peut pas recevoir le baptême d'eau, ça a été le cas par exemple de milliers de personnes au début de l'histoire de l'Église, pendant les grandes persécutions, des milliers de martyrs étaient des gens qui étaient des catéchumènes, qui n'étaient pas encore baptisés avec un baptême d'eau. Et comme ce baptême d'eau est nécessaire au salut, comme le baptême plutôt est nécessaire au salut, le bon Dieu, dans sa miséricorde, considérait qu'un baptême de désir, une personne qui a un fort désir d'être baptisée, qui ne peut pas être baptisée tout de suite parce qu'il est encore catéchumène, il faut qu'il finisse sa formation, il a déjà le baptême en lui par un baptême qu'on appelle un baptême de désir. De la même façon, quelqu'un qui donne sa vie pour notre Seigneur Jésus-Christ, même s'il n'est pas encore baptisé avec un baptême d'eau, il a déjà un baptême de sang. Un baptême de sang, c'est quoi? C'est un acte de charité parfaite. Y a-t-il une manifestation plus belle d'amour de Dieu que de donner sa vie pour le bon Dieu? Bien sûr que non. Donc l'Église a toujours enseigné l'existence à côté d'un baptême, un seul baptême, il n'y a qu'un seul sacrement de baptême, c'est évident, mais en quelque sorte un remplacement temporaire, en quelque sorte, on pourrait dire, les sacrements de baptême d'eau, par un baptême de désir ou baptême de sang. Donc faites attention à ne pas vous laisser corrompre par un groupe schismatique, même un groupe hérétique américain qui vient des États-Unis, que j'ai bien connu quand j'étais là-bas. J'ai eu beaucoup de difficultés quand j'étais aux États-Unis avec ces groupes qui suivent un père Léonard Finet, qui a été excommunié par le pape Pie XII en 1953, précisément parce qu'il niait ces deux points de foi, à savoir le baptême de sang et le baptême de désir. Alors faites attention à ne pas vous laisser contaminer par ces fausses idées, des gens qui disent qu'il faut impérativement un baptême d'eau. Quelqu'un qui a un baptême de sang de désir, qui est mort avec un baptême de sang ou de désir, ne peut pas être au ciel. C'est absolument contre l'enseignement catholique. Donc il faut demander cette grâce du baptême. C'est évident que quelqu'un qui pourrait recevoir un baptême d'eau et qui ne reçoit pas en disant « moi j'ai simplement un baptême de désir, ça me suffit, je ne demande rien d'autre », mais ce que non, dans ce cas-là, il manque quelque chose d'essentiel, c'est évident. Vous voyez, comme il faut faire attention à garder, se garder en quelque sorte des nouveautés dans ce domaine comme dans tous les autres. La foi catholique ne change pas, mes chers frères, parce que la foi catholique est fondée sur la divinité même de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est ça la grandeur de l'Église catholique. La grandeur de l'Église catholique vient du fait qu'elle est fondée sur un roc, et ce rocher sur lequel est fondée l'Église catholique, c'est précisément notre Seigneur Jésus-Christ. Qui est en Dieu, ne peut pas changer parce que Dieu ne change pas, puisqu'il est déjà, il a déjà tout par lui-même. Il n'y a rien besoin de rajouter au bon Dieu, Dieu a déjà tout par lui-même. Nous demandons, mes bien chers frères, en conclusion, un grand amour de l'Église, un grand amour de l'Église catholique, et n'oublions pas que cet amour doit passer par l'amour de notre Sainte Vierge Marie. On ne peut pas aimer notre Seigneur Jésus-Christ sans aimer sa mère, c'est impossible. On ne peut pas séparer ce que Dieu a uni. Ne peut donc pas séparer la mère du bon Dieu de son Fils, à savoir notre Seigneur Jésus-Christ. D'où l'importance, cette dévotion à notre Sainte Vierge Marie. Et les gens qui ont parfois un petit peu de mal à comprendre toutes ces choses-là, qu'est-ce qu'il faut qu'ils fassent? Tout simplement apprendre à se mettre à genoux et commencer à réciter son chapelet et commencer à réciter son rosaire. Quelqu'un qui sait se mettre à genoux pour prier notre Père Jérusalem Marie, quelqu'un qui ouvre déjà la porte de son cœur pour que la grâce du bon Dieu puisse y rentrer. Nous demandons toutes ces grâces par l'intermédiaire de Notre-Dame. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.